Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Fendoel et je suis accompagné d'Acariatre. Bonjour Acariatre.
Bonjour Fendoel.
Comment vas-tu?
Très bien.
Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu.
Je passe ici en coup de vent pour une interview.
Ah, c'est cool. Et qu'est-ce que nous accueillons justement qui vaut cet honneur?
Et donc aujourd'hui, nous accueillons Annick Pelletier, qui est orthopédagogue venue du Québec. Elle nous expliquera ça dans un instant. Et elle est aujourd'hui accompagnée d'Angélique Prost, qui elle est française et participe au mouvement de l'orthopédagogie. Angie sur Ludovox.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pour toutes les deux, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Jeu. Jeu, 100% jeu.
Ah, le cinéma, c'est connu.
Ouais, mais pas pour nous.
Plutôt bière ou champagne?
Vin, je m'excuse. Je peux pas répondre, aucun des deux.
Je vais dire, par rapport à Cannes, je vais dire champagne.
Donc Cannes, c'est plutôt camping ou Martinez? Le Martinez, c'est un hôtel, je sais pas si tu sais.
Non, je suis désolée.
C'est la plage.
Camping sur la plage.
Camping sur la plage, ah c'est cool. Plutôt off ou dodo?
On fait off à l'hôtel. On fait de la pédagogie sur le jeu.
Dans la chambre. La même chose. C'est bon.
Plutôt salon ou festival?
Festival.
Un festival.
Plutôt pro ou perso?
Ah bah oui. C'est une bonne question.
Pro et perso.
Ouais, moi j'allais dire les deux, mais en fait, tu remarques qu'on répond jamais comme il faut aux questions.
Vous répondez toujours les deux.
Nous, on est habitués de trouver des trucs.
Nous, on est flexibles.
Qu'est-ce qu'on nous demande?
En dehors du cadre. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Orthopédagogie, ça existe, ça?
Oui, ça existe. Chez nous, ça existe au Québec. Et c'est en devenir ici en France, heureusement. Alors, voilà.
Qu'est-ce que c'est ça exactement?
Ouais, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est ça qu'on dit chez nous. Je sais pas si vous dites ça ici.
Ah,
non, d'accord. Donc, l'orthopédagogue va venir en aide lorsqu'un élève est en difficulté. Donc, lorsqu'un élève est en difficulté d'apprentissage, on a besoin d'aide. Donc, chez nous, souvent, la première personne qu'on va aller voir, c'est l'orthopédagogue, qui est comme en quelque sorte un professeur truc. Donc, c'est ou un médecin généraliste des apprentissages. Donc, on va essayer, dans un premier temps, de premier niveau, de déceler pourquoi il est en difficulté. Mon objectif à moi, ça va être d'essayer de le sortir de ces difficultés-là. Mais parfois, je suis pas la bonne personne. C'est là que moi, je vais devoir rediriger vers un spécialiste, comme un orthophoniste, un ergothérapeute, un psychologue, un neuropsychologue, un pédiatre, peu importe. Mais au premier plan, on va aller voir l'orthopédagogue. Parfois, ça suffit. On va tout de suite trouver pourquoi il y a un petit retard en lecture, en écriture, en mathématiques, au niveau des apprentissages en général. Une fois qu'on a trouvé, qu'on pense avoir trouvé les causes, on va essayer de réparer les causes. Et c'est là que parfois, ben, je suis pas la bonne personne. Des fois, la cause, elle est langagière. Je vais avoir besoin de l'aide de mon orthophoniste. Mais pour ce qui est des trucs d'apprentissage puis du rattrapage, ça, je vais m'en occuper. Et lorsque les causes sont cognitives, comme par exemple difficulté de moduler l'attention, gérer l'impulsivité parce que l'élève va trop vite, lorsque c'est un problème à organiser les informations en mémoire, les styles d'apprentissage, etc., là, c'est moi qui va s'en occuper. Alors moi, je vais m'occuper d'essayer de réparer, rééduquer, apprendre à l'élève à apprendre comme il faut pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin de moi qui vole de ses propres ailes dans ses apprentissages.
Est-ce que c'est un cours théorique que tu fais ou il y a, je sais pas, tu fais des dessins, tu fais quel est le support que tu utilises
dans l'intervention avec l'élève?
Oui.
Alors principalement, moi, j'ai toujours joué beaucoup quand j'étais petite. Et lorsque j'ai commencé à travailler en apprentissage, ben souvent j'avais toujours l'œil de me dire, j'ai un jeu qui travaille ça à la maison, ça travaille strictement la même chose que je suis en train de faire, papier crayon ou dans le cahier de mon élève. Et alors tout de suite au début de la carrière, j'ai choisi de commencer à utiliser le jeu de société pour essayer de rééduquer. Moi, ça devenait un médium. Donc, tu me poses la question, quel médium, en quel outil tu vas utiliser? Nécessairement, on a toutes sortes d'outils de matériel éducatif et compagnie, mais le jeu, de plus en plus, moi, dès le début de ma carrière, a pris énormément de place. Et tout de suite, là, quand j'ai vu ce que ça faisait et à quel point ça allait rapidement pour rééduquer ou réparer certains contenus, certains apprentissages, je me suis dit, ben pourquoi pas? Mais je dois pas je te cacherai pas qu'au début, j'étais gênée. Je me disais, ben voyons, je peux pas prendre un jeu de société pour travailler. Et là, je demandais la permission des parents au départ. Je demandais la permission des parents. Je me disais, ben, est-ce que ça vous dérange? J'essaie, tu sais, le jeu travaille la même chose. Ben, les parents me disaient, ben non, en autant que ça fonctionne, puis qu'il récupère ses retards ou qu'on en arrive à réparer ce qui fonctionne pas. Et je me rendais compte que ça allait beaucoup plus vite. Et là, ben oui, on est dans un air qui est ludique et où l'affectif est beaucoup plus ouvert. Et là, bon, de fil en aiguille, ben, je me suis mise à davantage utiliser le jeu. Je me suis mise à découvrir que c'est pas tous les jeux que je peux utiliser, qu'il y avait des jeux qui étaient pas à point à utiliser. Donc, c'est ça. Alors moi, je me suis mise à filtrer et à trouver pourquoi. OK, pourquoi ce jeu-là? Pourquoi lui, il a pas fonctionné? Et là, je parle au début de ma carrière. Hein. J'avais le temps de faire ça. J'avais pas d'enfants à la maison non plus. Ça a été parfait parce que ça m'a permis vraiment de trouver les bons outils par le jeu. OK, pour travailler, mais pourquoi les bons outils? Et d'analyser tout ça et de forger tranquillement une pédagogie par le jeu. Une façon, oui, j'utilise mon jeu, mais je vais avoir des techniques, des façons d'utiliser le jeu qui vont faire en sorte que là, le jeu va être optimisant.
C'était une question que j'avais, en fait. Est-ce que tu utilises un jeu tel quel ou est-ce que tu fais des adaptations pour... tu veux utiliser certaines parties du jeu ou ce genre de choses pour être plus ciblé dans ce que tu veux faire?
Selon mon objectif. Donc, ça va dépendre de l'objectif que j'ai. Alors, parfois, je vais utiliser le jeu intégral. J'utilise le jeu comme ça, le jeu est bien fait, j'ai rien d'autre à dire. Parfois, je vais trouver d'autres choses à faire avec la création qui a été faite. Donc, moi, je prends le jeu tel quel et on invente d'autres choses à faire. Parfois, je vais adapter. Et parfois, justement, mon adaptation va me permettre de faire un premier niveau d'intervention puis un deuxième niveau. Je te dirais que ce qui est le plus important là-dedans, lorsque je décide de changer soit les règles ou d'adapter, c'est de garder le plaisir. Donc, moi, mon premier objectif, c'est que la boîte que je sors, je dis toujours, sortir une boîte de jeu pour travailler, c'est comme si j'avais une boîte de cristal entre les mains. Faut pas que je rate mon coup. Parce que le jeu, c'est supposé être ludique et plaisant. Donc, l'élève sait qu'il va passer par une activité ludique et plaisante pour aller apprendre. Mais il sait très bien aussi qu'il vient pas juste jouer pour jouer. Donc, il sait pourquoi il joue. Alors ça fait partie des techniques de pédagogie. On va toujours d'abord enseigner le cerveau à l'élève, l'informer de pourquoi lui, il doit venir me voir, pourquoi les autres élèves de la classe viennent pas. Alors, il doit comprendre pourquoi il vient me voir, les processus de son cerveau, lesquels fonctionnent bien, lesquels fonctionnent moins bien. Et après coup, c'est là que tranquillement, je vais utiliser des médiums de travail, dont le jeu. Et lorsque je sors un jeu, ben, je vais lui dire, pourquoi tu penses qu'on utilise ce jeu-là? Et l'élève est informé de pourquoi. Pour quelles raisons? Puis, je vous dirais que plus souvent qu'autrement, les élèves, ils désirent se sortir de ça. Donc, ils désirent passer par n'importe quel médium pour y arriver. Mais lorsqu'on sort un jeu de société, ils sont bien heureux qu'on arrive avec un jeu de société. Alors, on va leur dire comment le jeu fonctionne et tout. Et on va surtout leur dire qu'est-ce qu'on s'attend dans ce jeu-là. Tu vas voir, par exemple, ça va te demander beaucoup, beaucoup de connexions de neurones pour gérer ton impulsivité, par exemple. Et là, tu vas voir, on va jouer de telle manière. Moi, je lui ai donné des trucs avant pour gérer son impulsivité. Le jeu devient un prétexte pour provoquer une situation où l'élève va être dans une situation de gestion d'impulsivité, mais je lui ai appris comment se réguler avant. Donc, on y joue, il est outillé pour jouer, ça enlève le stress, ça garde la partie ludique, mais moi, il faut que je sache choisir le bon jeu. Alors, on parle d'impulsivité, par exemple, ben nous, dans le fond, ça fait 16 ans là, qu'on fait ça, et on a toutes sorti des listes de jeux dans les 16 dernières années, donc les jeux qui sortent sur le marché, et on les liste, on tient des documents de jeux, donc nos jeux sont micro-gradués. Alors, ma rééducation par le jeu va être micro-graduée. Je vais commencer avec un premier jeu pour travailler l'impulsivité, puis après, j'en ai un deuxième, puis un troisième. Puis là, je sais pas, moi, s'il y a une série de 15 jeux, parfois, j'en prends juste 3. Mais, par exemple, je prendrai pas Panic Lab mon premier. Je vais commencer par Ghost Blitz ou Fast Flip ou Double et ainsi de suite. Et lorsque l'élève devient de plus en plus habile, je vais augmenter la charge de travail jusqu'à transférer, quand on voit qu'il transfère dans son quotidien, chose que je vais l'aider à faire. Donc, je vais lui apprendre que c'est pas juste en jouant que ça va régler le problème dans sa vie. Je dois l'accompagner à transférer. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, là. C'est pas juste en jouant que ça va régler le problème. En jouant, juste jouer pour jouer. Déjà, il y a pas personne qui meurt de ça. Hein, c'est très bon pour le cerveau, on le sait. Mais jouer, en plus de savoir pourquoi et comment le transférer dans ma vie, ah ben là, c'est là que mon jeu prend tout son sens pour rééduquer.
Et donc sur une séance donnée, le jeu, ça occupe quelle partie, la partie de jeu par rapport en termes de temps?
Ça dépend, Angélique, ça dépend. Parfois, si j'ai une heure d'intervention, ça va être toute l'heure. Parfois, mon jeu va prendre un 15-20 minutes, puis le reste de l'heure, je vais transférer. Par exemple, bon, je régule mon impulsivité, on a notre nouvel entraînement, c'est bon. Moi, le 40 minutes qui me reste, je transfère en résolution de problèmes écrits, parce qu'on sait que c'est là que c'est le plus difficile pour l'élève. Donc, on transfère en résolution de problèmes, puis là, on apprend à rouler pas trop vite. Comme on a appris à rouler pas trop vite dans notre jeu, par exemple Fast Flip, et là ben je vais apprendre à rouler de la même manière. Tu sais, l'élève il a passé par le jeu, il y a un feeling dans le jeu. C'est ça qui est chouette, hein. On a le kinesthésique, on a toute l'intelligence émotionnelle, visuelle, parce qu'on voit le jeu, on le touche, kinesthésique, on parle. Donc on passe par plusieurs types d'intelligence et après ça on transfère ça dans une tâche qui est, mettons, moins intéressante pour l'élève, mais on cherche le même feeling. Je cherche le même feeling de freinage. C'est juste que dans des stratégies parfois un petit peu plus plates pour lui, mais ouais.
Et c'est pas un risque justement qu'ensuite l'élève ne souhaite plus que passer par le jeu et refuse la transférabilité. Enfin, c'est un mécanisme simple à mettre en scène.
Oui. Et c'est surtout moi qui va faire toute la différence, l'acteur, justement dans le médium où là, moi, je vais enseigner à l'élève pourquoi on utilise des jeux, puis quelle chance ça va nous amener, quelles compétences on peut développer par ça, mais que ça va être à lui de transférer ça. Donc, c'est ça un orthopédagogue. Un orthopédagogue, ça apprend à apprendre. Ça apprend à s'autogérer. On appelle ça faire de la métacognition, c'est réfléchir sur ce que je suis en train de faire. C'est le principal objectif du métier de l'orthopédagogue.
Si je peux juste me permettre, tous les enfants ont envie, en fait, c'est une souffrance pour eux de pas y arriver à l'école. Donc, quand ils viennent nous voir, quand même, l'objectif, c'est de se sentir bien, de se sentir mieux, mais il n'y a pas d'élève qui a pas envie d'aller mieux, en fait. Donc, nous, on propose juste un jeu pour, comme elle disait, apaiser un petit peu, qu'ils sentent bien, que voilà, on ait une régulation émotionnelle qui soit plus positive. Et puis, derrière, il a envie de refaire.
Et donc l'orthopédagogie ne passe a priori pas que par le jeu. Le courant d'utiliser le jeu en orthopédagogie, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de très qu'on retrouve chez tous les orthopédagogues, ou c'est encore
non,
une petite frange?
Non, pas du tout. Même pas chez nous. Ah bah donc nous malheureusement. Non, c'est pas moi je vous dis c'est venu parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a fait baigner dans plusieurs beaux jeux de société lorsque j'étais petite et ces classiques là sont revenus dans ma tête pour transférer, mais je pense pas que si j'avais pas joué petite, je pense pas que j'aurais eu ce réflexe-là. Et tranquillement, ça s'en vient parce que, bon, j'ai réussi à démontrer qualitativement, hein, parce que, justement, c'est à venir. On pourra en reparler tout à l'heure, mais dans les projets de recherche. Mais jusqu'à aujourd'hui, le 22 février 2019, on n'a pas d'études concrètes de fait sur le jeu de société dans les apprentissages. Donc, ça a été qualitatif. Mais moi, tu sais, ça fait quand même 16 ans que je fais ça. Donc, chez nous, au Québec, ben on a utilisé beaucoup le jeu. J'ai donné énormément de formations dans les écoles, les commissions scolaires, et d'autres aussi ont fait du travail sur le jeu. Là, je suis pas la seule non plus. Donc, tranquillement, ça se parle, on voit ce qui est positif, on voit ce qui ressort de ça. Les enseignants nous le disent en grand groupe, les éducateurs spécialisés, les psycho-éducateurs, les orthophonistes. Donc, tranquillement, ça s'en vient là, de plus en plus d'utiliser le jeu dans les apprentissages. Et voilà, donc je sais pas si...
En France, c'est un peu différent parce que moi je sais que je fais partie d'une association dans laquelle on développe l'orthopédagogie, donc c'est UOF avec laquelle on travaille avec Annick, mais du coup nous chez nous déjà l'orthopédagogie en fait n'existe pas, donc on le développe. Donc on a la chance que sur nos cohortes, donc première cohorte pratiquement elles se sont toutes formées à la pédagogie par le jeu, deuxième cohorte elles sont les trois quarts, mais après c'est un métier un petit peu en électron libre, donc chaque personne peut décider de faire de l'orthopédagogie. Donc moi ma conviction profonde et voilà, ce serait qu'on le développe de cette manière-là. Donc dans l'association on a une branche pour ça. Mais après nous tout est à construire. Vous devez déconstruire au Québec parfois. Nous on doit construire.
Parce que juste pour bien comprendre, au Québec, c'est les professeurs qui vous envoient les élèves, les parents qui vous envoient les élèves?
Les parents, les professeurs, les professionnels. Parfois, tu sais, on va avoir des évaluateurs, par exemple, en orthophonie, où là, bon, on décèle une certaine problématique qui va appartenir à l'orthopédagogue. L'orthophoniste va faire son bout, moi, je fais mon bout, on travaille ensemble. Le neuropsychologue va faire un bilan, décèle certaines fonctions exécutives qui fonctionnent moins bien, comme par exemple le système d'arrêt, l'activation, la planification, l'organisation. Et ben, plus souvent qu'autrement, chez nous, nos précieux neuropsychologues vont évaluer. Il y en a très peu qui font de l'intervention. Heureusement, on en a qui en font. Mais on vient souvent en relais pour travailler en pairage ensemble pour justement évaluation, intervention. Donc, on a des professionnels qui nous envoient, les enseignants, les parents qui viennent d'eux-mêmes. Alors, on intervient de 3 ans jusqu'à l'âge adulte et on stimule l'éducation du cerveau à partir de 18 mois, 2 ans là, dans les CPE. Là. C'est magnifique ce qu'on arrive à faire. Et tranquillement, pour la rééducation, ça commence aux alentours de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, parfois, c'est les adultes ou des adolescents qui viennent par eux-mêmes chercher l'aide. C'est vraiment l'aide à l'apprentissage. Hein. Donc, c'est ça. Alors, c'est...
Et là, tu parles de rééducation. Donc, c'est la même chose pour vous, la pédagogie, la rééducation?
Enfin, non. Vous... Donc, on va avoir en premier lieu un enseignement qui a été fait dans un premier temps. Et parfois, ben, cet enseignement-là, il fonctionne pas. On sent que ça colle pas chez l'élève. Et là, à un moment donné, il se met à prendre du retard. Et là, c'est là, parfois, la rééducation... On va pouvoir récupérer. Récupérer, c'est refaire une deuxième fois ou autrement. Et hop, à un moment donné, l'élève arrive à récupérer. Il reprend son retard. Parfois, ça ne suffit pas, la récupération. Et là, on va devoir rééduquer. On va devoir réparer, reconstruire, déconstruire, essayer de déconstruire ce qu'on a fait en passant par des nouvelles connexions neuronales, finalement. Alors, c'est là que parfois, on a besoin de travailler en équipe. Parce que moi, je veux dire, je suis orthopédagogue, mais je suis pas pédiatre, puis je suis pas ergothérapeute, je suis pas psychoéducatrice. Donc, c'est là qu'on a besoin de travailler en équipe, parfois, lorsqu'on arrive dans la rééducation, la restructuration, les adaptations. Parfois, des fois, faut vraiment... On dit, OK, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire pour ce processus du cerveau-là. Ben, pour le reste, on va adapter, puis on va pallier avec d'autres choses. Donc, souvent, on va prendre ces décisions-là en équipe aussi.
OK. Et en France, comment on arrive chez l'orthopédagogue?
Alors, en France, on arrive... Alors, je vais parler pour ma part, en tout cas.
Comme chez Angélie.
C'est ça. Non, beaucoup parlent bouche à oreille. Voilà. Bah, alors après, moi, je travaille beaucoup avec des neuropsies, des orthophonistes sur mon secteur, en tout cas. Et comme Annick, et ben en fait, les neuropsies, elles ont pas le temps de tout faire. Elles font beaucoup de bilans. Moi, mes collègues, elles sont par exemple complètes jusqu'à juillet, voire août. Donc, on laisse pas des enfants. Enfin, voilà, tout ce temps-là sans rien. Je travaille beaucoup avec des enseignants et puis voilà, c'est les parents qui arrivent et on va beaucoup essayer de mailler en équipe également. Mais après, en termes d'intervention, moi, je suis très proche de tout ce qu'elle vient de dire. Ensuite, ça va se faire pareil. Sauf que voilà, le biais va être le bouche à oreille en fait au départ.
Mais si quelqu'un cherche en France, si je me permets, oui. Angélique, vous pouvez par le site internet de l'UOF. L'Union des orthopédagogues de France, communiquer déjà avec l'équipe pour savoir, bon, moi, je suis dans telle région, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que on débute, là, dans le fond, les filles ont fait un travail énorme, et moi, je suis rien en passant dans l'UOF. Moi, je viens juste ajouter une couleur que j'ai développée, mais moi, c'est une petite parcelle de ce qu'elles font. Et dans le fond, j'imagine que, en communiquant avec l'UOF, peut-être tranquillement, vous allez avoir des intervenants qui vont commencer à être formés. Là. Déjà, c'est commencé. Alors, peut-être que les gens pourront accéder à des orthopédagogues.
On mettra le lien dans le billet de l'émission.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'orthopédagogue convaincu que le jeu est un médium très intéressant pour diffuser l'information, pour évangéliser?
Donc, pour diffuser, moi, pour ma part, c'est beaucoup par la formation, les conférences. Demain, d'ailleurs, sur le festival, le 23 février, il y a une conférence, je donne une conférence de 11h à 12h30 qui va être d'ailleurs filmée.
Demain, samedi 23 février.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Pas chose que j'ai dit. Bon, désolé. Je suis peut-être dans le décalage horaire encore. Alors, Ludovox va filmer la séance, donc les gens vont pouvoir aller réécouter. C'est intéressant. Et c'est vraiment comment stimuler le cerveau et les apprentissages par le jeu de société. C'est vraiment une superbe fenêtre, un petit clin d'œil concis qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu de société. Alors, souvent, les conférences, les formations vont beaucoup, beaucoup... Bon, et ça se parle de bouche à oreille aussi. C'est comme ça qu'on va découvrir ce qu'on fait avec les jeux. Chez nous aussi, on a des plages à la télévision, parfois, au micro, comme on fait aujourd'hui. J'ai écrit le guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant en 2009, qui est encore tout utilisable aujourd'hui. Il y a quelques jeux qui ne sont plus édités dedans, mais ça, vous pouvez nous écrire, puis on vous dit sont remplacés par quoi.
On le trouve où, ce guide?
En librairie. Donc, aux éditions Septembre Éditeur. Donc, c'est un guide qui se veut 40 coups de cœur où je vais expliquer avec chaque coup de cœur, chaque jeu. Bon, par exemple, si j'ai un coup de cœur au niveau, je sais pas, travailler le vocabulaire avec le jeu Montamo Mini, et là, je vais vous dire quoi faire avec Montamo Mini. Et je vais tout vous dire comment on peut l'adapter, comment on peut changer les règles, comment on peut l'améliorer, comment faire grandir, évoluer le jeu. Donc, ça a été un beau médium de diffusion, donc comment utiliser le jeu. Et dernièrement, on a commencé, là, parce que, bon, je me faisais poser la question, à quand le deuxième guide? Mais je répondais toujours, il n'y aura jamais de deuxième guide. Donc, plutôt, c'est le manque de temps, sincèrement, c'est pas le désir dans mon cœur. Le manque de temps, donc, aujourd'hui, on a démarré la chaîne YouTube Un Petit Jeu, qui se veut une suite du guide, mais au lieu d'être écrite, ben elle est filmée. Alors pour moi, ça va plus vite et merci à mon ami Maxime Beribé qui nous aide beaucoup là-dedans. Donc dans le fond, ça se veut, chaque vidéo va présenter, il y a toujours une vidéo rapide qui va vous dire quoi faire. Par exemple, si je prends le jeu dans ma valise, qu'est-ce que le jeu dans ma valise peut travailler? Et vous avez une vidéo beaucoup plus longue où là, vous pouvez m'avancer là si vous êtes tanné de m'écouter. Et tout écouter au complet si vous êtes vraiment, oh wow, je veux tout faire ça. Je vous dis exactement tout faire, quoi faire avec ce jeu-là de ce que moi j'ai trouvé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais donc, présentement, on a 3 jeux sur la chaîne. Donc, c'est ça. On a un petit jeu de mathématiques, on a un jeu de mémoire et on a le jeu speed, un petit jeu de vitesse aussi. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres jeux à venir et il y a plein d'autres projets intéressants aussi avec Asmodee Research pour développer vraiment des... c'est ça. Donc, par exemple, des guides qui iraient avec des jeux existants déjà. Donc, comment faire? Parce que, comme je vous ai nommé tout à l'heure, ben, je peux vous dire, oui, ce jeu-là, c'est bon pour l'anticipation. Bon, joue à Camisado, c'est excellent pour l'anticipation. OK, mais comment? Donc, ça va être ça, le comment. Alors, c'est à venir, ça. Alors, c'est des projets qui s'en viennent de développement. Et ça va être pour l'application autant France-Québec, et à l'international. Et voilà, donc, comme moyen de diffusion, je vous dirais qu'on est pas mal dans ces... Il y en a d'autres aussi, là, même.
Ouais. En plus, pour ma part, en tout cas, on a la chance, et c'est un petit peu aussi comme ça qu'on est un peu ici aussi, c'est que, j'ai la chance de bien connaître Marilyn et Thibault. Alors, ils sont mieux connus peut-être sous le nom de Chanouillette et Chaman, et qui croient depuis le début dans ce qu'on peut faire, et qui parfois me laissent une petite fenêtre, parfois quand en ont besoin, en fait, une petite fenêtre sur Ludovox, parce que, voilà, ils sont persuadés qu'il faut parler du jeu de société sous toutes ses formes, et c'est comme ça que j'ai pu expliquer le travail avec Annick, et qu'il y a plein de choses qui se sont déroulées.
On mettra les articles aussi en lien dans le billet pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, donc vers Ludovox. Toutes ces ressources, elles s'adressent plutôt à des professionnels de la pédagogie, ou c'est aussi pour les parents, les instituteurs qui, dans le cadre de leur activité courante, peuvent s'en saisir et travailler des choses avec les enfants?
Pour tous, même pour l'apprenant lui-même tout seul. Alors, ça peut aller jusque-là parce que le premier objectif de ces trucs-là, c'est de les donner à l'élève. Nous, là-dedans, là, tu sais, le premier travail d'un rééducateur, qu'il soit orthophoniste, ergothérapeute, orthopédagogue, notre premier travail, c'est de redonner le pouvoir exécutif à l'élève, le pouvoir langagier, le pouvoir moteur, là, c'est de lui redonner ça. On est un passant, hein, au fond, tout ça, là, malgré notre spécialité, on est pédagogue. Alors, nous, on se doit, dans le fond, de rendre l'élève autonome. Donc, le premier visé, c'est l'élève. Alors, l'élève pourrait très bien tout lire, regarder ces trucs-là et essayer de les faire par lui-même. Bien souvent, ça va lui prendre un médiateur qui va être un intervenant, qui va être un parent, un gardien, peu importe, un accompagnateur qui va venir, soit qui va être un élève, un parent, un adulte, qui va venir avec lui l'aider à faire ça, l'aider à modéliser, puis l'accompagner jusqu'à temps que l'élève soit capable de le faire lui-même. Donc, ce sont vraiment des trucs très explicites, très, 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 très faciles.
Oui, c'est ça. Puis après, nous, on va intervenir de manière plus spécifique. Si ça résiste, en fait, s'il y a une résistance, nous, on va avoir notre place dans ce cadre-là.
Tout à fait.
Très bien. Une dernière question, peut-être. Le jeu de société, c'est aussi beaucoup joué en société, donc à plusieurs. Là, j'imagine que quand en orthopédagogie, vous rencontrez souvent les élèves un par un, Est-ce qu'il y a aussi la vocation à élargir le cercle et faire jouer plusieurs élèves ensemble pour peut-être cultiver d'autres choses?
Oui, c'est tout à fait, c'est déjà en point, en place. Donc, nous, on soit qu'on le fait en individuel, on le fait en diade, en sous-groupe, mais on a aussi toute cette pédagogie-là qui peut très bien être et qui l'est déjà dans les classes. Alors, tout est adaptable. C'est certain que, bon, un jeu qui se joue à deux, c'est un jeu qui se joue à deux. Donc, nécessairement, lorsqu'on est dans les classes et qu'on fait de la pédagogie par le jeu à 25 élèves en même temps, bien, soit que les élèves ont tous le même jeu ou soit qu'on a des îlots de travail. Mais les techniques restent les mêmes. Le pédagogue va pouvoir se promener pour faire ces techniques-là et guider ses élèves, mais ça se fait très, très bien.
Ouais. Et puis, on va renvoyer le jeu dans les familles aussi. Et donc, ça va permettre de réguler pour eux aussi, d'apprendre à l'utiliser à deux, à plusieurs, contexte frère et sœur. On le sait, hein, c'est jamais pareil. Donc, du coup, il y a tout ça qui gravite autour.
Ouais. Lorsqu'on est en rééducation, je peux justement ajouter... C'est ce qui fait la différence entre une rééducation qui va très rapidement versus ce qui prend un peu plus de temps. L'élève qui repart avec l'entraînement à la maison, avec son jeu, qui s'entraîne, ça va beaucoup plus vite. Là. Ça, c'est qualitativement, on le démontre, là, les rééducations vont beaucoup plus rapidement.
C'est sûr.
Ouais.
Il y a une dernière chose dont vous vouliez parler ou...
Non. On peut parler toute la journée, tu sais.
C'est dangereux, là. Tu mets une copine canadienne et française qui se voit une fois par an.
Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'a pas souvent l'occasion de partager sur l'antenne. Donc, très intéressant. Et puis, à l'occasion, on essaiera de faire des interviews plus longues avec les
avec
gens de votre profession.
Tout à fait.
Et puis, que tout le monde se saisisse de l'orthopédagogie, joueurs, parents, profs, associations, professionnels.
Oui.
Ça me semble.
Oui. Faut le développer,
ça
c'est
me semble
sûr.
Le sens de l'avenir.
Oui. Et puis, tu sais, en attendant, justement, les gens peuvent aller, comme on a nommé un petit jeu tout à l'heure. Bon, le guide des jeux de société. Sinon, il y a aussi par la page Facebook OptiNeuron. OptiNeuron, nous, c'est dans le fond, c'est la clinique. Je sais pas comment vous appelez ici, le cabinet?
Alors, oui, c'est cabinet.
Donc, c'est l'approche OptiNeuron, c'est l'approche orthopédagogique par le jeu, entre autres, et au niveau des fonctions exécutives qu'on a développées au Québec. Et sur la page Facebook OptiNeuron, donc, vous allez trouver... Parfois des trucs, vous allez trouver des échanges entre les gens. C'est souvent au niveau des jeux de société, les événements qu'on fait. Donc, les gens qui sont intéressés aux jeux dans les apprentissages ou dans la stimulation du cerveau peuvent toujours aussi aller sur la page Facebook OptiNeuron.
C'est ça. Ouais. Non, rien de plus. C'est parfait. Et elle le dit avec l'accent. C'est top.
Merci à toutes les deux.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee si vous le souhaitez. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien!